Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Manuel Valls.
Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci beaucoup d'être sur RTL ce matin, alors que les députés, dont vous, se prononcent cet après-midi sur la nouvelle loi antiterroriste du gouvernement qui prendra le relais de l'état d'urgence. Première question, Manuel Valls, fallait-il sortir de l'état d'urgence ?
La question mérite d'être posée. On aurait pu rester, d'ailleurs je n'aurais pas été choqué, on aurait pu rester dans l'état d'urgence. Mais je crois que le texte qui est présenté par Gérard Collomb et qui va être voté cet après-midi correspond à ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire mettre dans le droit commun la plupart des mesures qui étaient dans l'état d'urgence et qui sont utiles, à leur demande d'ailleurs, aux services de renseignement, aux services de police, à la justice, pour lutter contre le terrorisme.
Vous seriez toujours au pouvoir, vous auriez fait voter, vous, la fin de l'état d'urgence.
Mais
vous seriez
des...
sorti de cette loi d'exception.
C'est un débat un peu compliqué, il y avait des fragilités sans doute constitutionnelles. Ça avait été annoncé à plusieurs reprises, à droite comme à gauche d'ailleurs, qu'il fallait peut-être sortir de l'état d'urgence. Je comprends d'ailleurs que nos compatriotes, ceux qui nous écoutent en ce moment-là, se disent « mais alors qu'il y a cette menace terroriste présente, permanente, qu'il y a cet état d'urgence d'une certaine manière, pourquoi sortir de l'état d'urgence ?» Donc il faut tout simplement, je ne sais pas s'il faut les rassurer, mais il faut leur dire que la continuité est assurée grâce aux dispositifs qui sont
dans cette loi. Le gouvernement dit « on ne peut pas prolonger une loi d'exception indéfiniment ». Vous vous étiez aussi posé la question en répondant que pour l'instant il ne fallait pas bouger, cela dit. Mais le niveau de protection sera le même, mais nous ne sommes pas dans un état d'urgence permanent. Avouez quand même que la recherche de l'équilibre en la matière a des limites. C'est Éric Coquerel de France Insoumise, qui on l'entendait tout à l'heure à 7h30, qui dit « on nous rassure faussement ».
Non, il ne s'agit pas de rassurer faussement. Il faut d'abord rappeler qu'il ne faut, nous ne pouvons pas nous habituer à ce qui arrive. Moi-même, en réfléchissant à cette émission, ces dernières heures, j'étais gagné par une forme de révolte. Quand on lit les portraits de ces deux
de
cousines, de Morane et de Laura, qui ont été assassinées dans des circonstances épouvantables à Marseille, j'ai gardé sur mon bureau à l'Assemblée nationale la même photo que j'avais sur mon bureau à Matignon, la photo d'un garçon tué dans le 11e arrondissement en 2015, Victor, le fils d'Ami, pour ne jamais oublier, pour me souvenir, pour me dire que ça reste notre priorité, que c'est le grand défi de la société française et du siècle. Et en même temps, par une conjonction d'éléments, mais nous en parlerons peut-être, vous avez eu cette attaque à Marseille, vous avez l'ouverture du procès de l'assassin des tueries de Montauban et de Toulouse. Vous avez l'incroyable dignité, parce que je les connais tous les deux, de Latifa Ibziaten et de la famille Sandler. Vous avez l'indécence de la famille du meurtrier de l'assassin, et je ne prononce jamais son nom. Vous avez la tuerie de Las Vegas, vous avez le vote de la loi. Tout ça nous rappelle tout simplement que la menace terroriste...
Les bonbonnes de gaz, découvertes dans le trottoir du 16e arrondissement.
Que la menace terroriste est notre quotidien. Je crois que je vous l'ai déjà dit ici. Je me suis souvent posé la même question. Est-ce que je dois, comme ministre de l'Intérieur, Premier ministre, rappeler en permanence aux Français que nous vivons avec ces menaces ?
Mais Gérard Collomb disait la semaine dernière, il n'y a plus le même niveau de menace.
Nous sommes à un niveau de menace énorme. Il rappelait d'ailleurs lui-même que plusieurs attentats, grâce au travail des services de renseignement...
Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il n'y a plus le même niveau de menace.
Mais je pense que nous vivons, vous lui demanderez, mais nous vivons avec le même niveau de menace. Et d'ailleurs, moi j'ai entendu le ministre de l'Intérieur, dans nos débats à l'Assemblée nationale, rappeler que nous vivions avec ce niveau de menace. Nous, rappelons-nous ce qui s'est passé encore il y a quelques semaines à Barcelone, nous vivons avec ce niveau de menace. Donc face à cela, il faut des dispositifs, il faut cette loi, il faut continuer à mettre le paquet sur le renseignement. Parce que c'est la meilleure manière...
La vérité, c'est que le renseignement ne pourra jamais rien faire contre ce qui s'est passé à Marseille.
Non, mais...
Il faut avoir la franchise de le dire.
Bien sûr, d'abord, il faut toujours dire qu'il n'y a pas de risque zéro, qu'il faut tout faire pour éviter les attentats, que
des
attentats sont évités. Oui, mais il y a tous les signaux, ce qu'on appelle les signaux faibles, donc la police municipale, la police du quotidien, la gendarmerie doit être totalement associé à la remontée.
C'était un clandestin, arrêté cette fois.
Bien sûr.
Et il n'a pas été expulsé parce qu'il manquait de place dans un centre de
Elisabeth
rétention.
Martichoux.
C'est pas une nouvelle loi antiterroriste qui va changer
non,
ça.
Non, bien sûr.
C'est quoi,
Elisabeth Martichoux? Mais tout ça doit être fait. Et de l'autre côté, et ça c'est le plus difficile, mais c'est en même temps indispensable. Il faut lutter contre l'islamisme, contre l'islam radical, contre l'islam politique qui alimente d'une manière ou d'une autre ces formes d'action, ces formes de terrorisme.
Mais ce n'est pas une nouvelle loi et ce n'est même pas le renseignement qui pourra régler ce problème de centre de rétention. C'est quoi ? C'est une nouvelle loi sur l'immigration ? Oui. Là, vous êtes d'accord.
Bien sûr, mais là, c'est un autre sujet. Tout sans papier n'est pas un terroriste, mais tout clandestin, toute personne qui est en situation illégale, doit être soit dans un centre de rétention, soit doit être expulsé.
C'est pas le cas.
Donc Gérard Collomb a eu raison de commander une inspection au ministère de l'Intérieur pour savoir ce qui s'est passé. Parce que c'est,
mais il y a un problème de place. Physiquement. C'est
assez étonnant, connaissant d'ailleurs comment les choses se passent. Mais nous imaginons tous les deux ce qu'entendent les Français là, depuis deux jours. Et je n'ose même pas imaginer ce que vivent les familles des victimes. Pour elles, c'est insupportable. Donc il faut que la lumière soit faite. Mais là aussi, il faut que l'état de droit soit respecté. D'ailleurs, pour pas qu'on confonde immigration avec terrorisme, immigration avec droit d'asile, il faut être extrêmement ferme. Et ceux qui n'ont rien à faire sur notre sol doivent être reconduits à la frontière.
Guillaume Larrivé, vous les connaissez bien. Deux députés Les Républicains, ils déposent une proposition de loi, 12 articles, cet après-midi, pour demander la systématisation de l'expulsion de délinquants clandestins.
Mais ça n'est pas constitutionnel et ça n'est pas sérieux. Ou plutôt, je dirais
c'est
les choses autrement. Oui, je regrette d'ailleurs que la droite, d'ailleurs ces députés que vous venez de citer, pour qui j'ai de l'estime, nous avons travaillé ensemble. Nous avons réussi au cours du quinquennat précédent à ce que sur toutes les lois antiterroristes ou sur les lois renseignement, je les ai présentées moi-même, soient votées à la fois par la gauche responsable, celle qui assume les responsabilités, et par la droite républicaine.
Là,
et moi, je les conjure de rester. Je mets de côté la France insoumise qui est...
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont irresponsables. Parce que je pense par ailleurs que dans leur discours, dans leur pratique concernant l'islam radical, il y a beaucoup...
Il y a de la complaisance.
Il y a de la complaisance, il y a de l'ambiguïté en tout état de cause.
De l'islamo-gauchisme.
Oui, je pense que c'est un discours islamo-gauchiste, c'est tout simplement...
Mais vous avez d'un côté cette gauche dont vous dites qu'elle est irresponsable, et de l'autre, vous avez cette droite dont vous venez de dire qu'elle faisait de la surenchère.
Oui, j'ai repris votre mot. Mais ce que je veux dire par là, tout simplement, et donc d'une certaine manière, peut-être ça veut dire que la loi qui est présentée, qui, encore une fois, met dans le droit commun des dispositifs qui existaient déjà, qui n'est pas la seule réponse face au terrorisme, mais cela montre qu'au fond, elle est équilibrée et qu'elle correspond à ce qu'il faut faire.
Elle rend Emmanuel Macron central, si je puis dire. Effectivement, quand vous avez d'un côté deux positions aussi éloignées...
Je pense que c'est le rôle d'une majorité, j'y appartiens, c'est d'avoir sur ces questions-là position centrale. Je préférerais, au-delà de la position centrale, que qu'il y ait le rassemblement le plus large, parce que face au terrorisme, l'unité et le rassemblement sont aussi des armes tout à fait indispensables.
Ça ne va pas mieux entre vous et France Insoumise. Hein. Vous les traitez, vous l'avez fait la semaine dernière aussi, de factieux. Ils vous traitent de gugus qui a plié son parti. C'est du violent.
Oui, mais c'est des mots dans un hémicycle ou sur des radios. Non, il y a des sujets beaucoup plus lourds, beaucoup plus importants. Celui de la complaisance, oui, avec l'islam politique. Ça c'est un autre sujet qu'il ne faut pas traiter, à la légère. Et une partie de la gauche, a failli sur cette question-là.
Et
dans la complaisance vis-à-vis du communautarisme.
Est-ce qu'elle est à l'œuvre, la complaisance, quand Daniel Obono, député France Insoumise, refuse de dire chez nos confrères de BFM qu'un conducteur de bus qui refuse de conduire après qu'une femme a touché le volant est un homme radicalisé. Est-ce que ça aussi, c'est une forme de complaisance?
C'est plus que de la complaisance.
C'est quoi?
C'est une complicité avec un islam politique. Parce que, pour comprendre ce qui s'est passé, le terrorisme aujourd'hui n'est pas issu d'un terreau et n'est pas lié au chômage ou à la misère. Nous faisons face à une idéologie totalitaire que nous devons combattre. Et cette idéologie totalitaire trouve sa source dans l'islam politique. Et c'est cela qu'il faut combattre pour aider d'abord aussi nos concitoyens et nos compatriotes musulmans à ne pas être pris en otage par cet islamisme radical.
Plusieurs questions importantes, on va essayer d'être très bref, il nous reste assez peu de temps. Est-ce que le gouvernement doit faire des concessions sur le budget 2018? Est-ce que c'est un budget des riches?
Non, il doit écouter bien sûr la majorité. Mais je pense que ce budget est juste, équilibré là aussi. François Langlais vient de le dire, nous avons toujours des grands débats sur la fiscalité. Enfin, écoutez, il s'agit de soutenir la compétitivité des entreprises pour créer de l'emploi. Donc, dans les dispositifs fiscaux qui sont dans le budget, il faut y voir d'abord cette priorité.
Vous ne défendrez aucun amendement particulier pour rééquilibrer, comme le demandait François Bayrou, par exemple, une mesure peut-être pour les classes moyennes ou les plus... Il faut être équilibré, disait-il.
Oui, mais je pense que c'est dans la durée, dans la profondeur qu'il faut le faire. Il y a à la fois le soutien aux entreprises, à la compétitivité, donc à l'emploi, et puis il y a ce que j'appelle, moi, la justice sociale ou le contrat social. Il faut donner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Il y a la suppression, en grande partie, de la taxe d'habitation. Il y a la suppression des cotisations sociales. Je pense qu'il faudrait aller, et je l'espère, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat. Et je n'oublie pas la pauvreté. Je sais qu'un plan pauvreté doit être présenté bientôt. Et moi, je reprends l'idée que j'ai défendue il y a quelques mois, cette idée d'un revenu minimum décent, autour de 850 euros. Parce qu'il faut, là aussi, aider ceux qui sont sortis, tout simplement, du chemin de l'emploi.
Vous confirmez l'information selon laquelle vous prenez une mission sur la Nouvelle-Calédonie ?
Comme la mission se réunit cet après-midi, et je devrais en être le président sur un sujet passionnant et important pour notre pays.
Vous ne serez pas invalidé dans quelques jours par le Conseil constitutionnel, votre élection
Le Conseil constitutionnel se prononcera d'abord pas avant quelques mois. Pas avant quelques semaines ou quelques mois, oui, absolument. Mais je n'ai là-dessus
aucune inquiétude. Merci Manuel Valls d'avoir été ce matin notre invité sur RTL.
Sur la sortie de l'état d'urgence, le texte présenté par Gérard Collomb aujourd'hui même, est-ce qu'il fallait faire, vient de nous dire Manuel Valls, il faut continuer à mettre le paquet sur le renseignement. Je mets de côté la France insoumise qui est irresponsable, voire complaisante avec l'islamisme radical. Et puis sur le budget, il s'agit d'un budget équilibré, vient de nous dire, entre autres, Manuel Valls. L'entretien, comme chaque jour, est à retrouver sur le site rtl.fr.